أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ مستهم البأس والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب؟ ألا إن نصر الله قريب؟ صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver en ce vendredi 19 juillet 2024. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. L'impasse politique post-électorale persiste en France. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, le mouvement yéménite Ansar Allah revendique l'attaque de drones contre Tel Aviv. La Cour internationale de justice rend son avis sur l'occupation des territoires palestiniens par Israël. Et puis, une panne informatique crée le désordre dans plusieurs aéroports dans le monde. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Les forces armées yéménites ont annoncé avoir mené vendredi 19 juillet une opération de drones contre Tel Aviv. La frappe a causé une puissante explosion près d'une installation consulaire américaine, les systèmes de défense aérienne israéliens étant échoués à intercepter le drone. La force aérienne des drones au sein des forces armées yéménites a mené une opération militaire qualitative en ciblant l'un des objectifs importants dans la zone occupée de Jaffa, connu en Israël sous le nom de Tel Aviv, a fait savoir dans un communiqué le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sari. L'opération a été exécutée par un nouveau drone nommé Jaffa, capable de contourner les systèmes d'interception de l'ennemi et indétectable par les radars. Il a atteint ses objectifs avec succès, précise le communiqué. Le général Sari prévient que désormais la zone occupée de Jaffa est une zone non sûre et qu'elle sera une cible principale des attaques de combattants yéménites qui vont atteindre en profondeur le territoire occupé par Israël, notamment des cibles militaires et sécuritaires sensibles. Des responsables israéliens ont confirmé qu'un drone d'attaque était entré dans l'espace aérien des territoires occupés de la Palestine en provenance de la mer Méditerranée. Le drone a explosé dans un bâtiment situé à moins de 100 mètres de consulat américain dans la ville, ont-ils indiqué. L'armée israélienne a déclaré avoir ouvert une enquête pour découvrir pourquoi les systèmes de défense aérienne du régime n'aient pas été activés pour intercepter le drone. Selon certaines informations, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a ajourné son voyage à Washington. L'explosion survient dans le contexte de la guerre génocidaire en cours du régime israélien contre la bande de Gaza, qui a incité des groupes de résistance de toute la région à lancer des centaines de frappes de représailles contre des cibles dans les territoires occupés. Les frappes aveugles d'Israël continuent de viser la bande de Gaza, tuant davantage de femmes et d'enfants sur le territoire assiégé. Dans le centre de Gaza, 5 membres d'une même famille et 2 autres civils ont été tués lors de frappes aériennes sur le camp de réfugiés d'Al-Bureij. Les forces israéliennes ont également pris pour cible un véhicule civil à Deir al-Bala, tuant 3 personnes. Pendant ce temps, une attaque contre une maison dans le camp de Nocerat a tué 1 civil et en a blessé 8 autres. Dans la ville de Gaza, une frappe aérienne israélienne a tué au moins 5 civils. Une précédente attaque contre une école de la ville de Gaza avait également tué 2 personnes et en a blessé 5 autres. Dans le sud, 12 corps ont été retrouvés dans une fosse commune à l'hôpital Al-Amal de Khan Younes. Les frappes israéliennes ont tué 54 Palestiniens en une seule journée, portant le bilan total à près de 38 850 personnes. Israël se prépare à recevoir un avis consultatif de la Cour internationale de justice, de La Haye, ce vendredi concernant la légalité de la présence israélienne en Cisjordanie occupée. La Cour internationale de justice, plus haute juridiction des Nations unies, est sur le point de rendre son avis consultatif sur l'occupation des territoires palestiniens par Israël. Elle se réunit à La Haye ce vendredi pour annoncer son avis. La Cour internationale de justice a examiné la question à la demande de l'Assemblée générale de l'ONU, relue en décembre 2022. Il a demandé l'avis du tribunal de l'ONU sur la politique et les politiques israéliennes à l'égard des Palestiniens ainsi que sur le statut juridique de l'occupation. Si la Cour internationale de justice émet un avis consultatif, celui-ci sera ensuite transmis à l'Assemblée générale des Nations unies. L'Assemblée décidera ensuite de la manière de réagir, ce qui poursuit inclure l'adoption d'une résolution. L'avis consultatif attendu n'est pas juridiquement contraignant, pourtant cela aura un poids politique important à l'échelle mondiale. Sachez d'autre part que le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim a qualifié l'attaque israélienne contre Gaza de guerre de vengeance, affirmant que le régime n'a aucune chance de remporter une quelconque victoire. Ali Borelikhani a fait ses remarques lors d'une réunion avec l'assistant du secrétaire général de l'ONU pour les affaires humanitaires. Borelikhani a souligné que la situation actuelle à Gaza était intolérable et il a appelé à la fin immédiate des tentatives israéliennes de déplacer la population de Gaza. Enfin, une panne technologique massive a perturbé les opérations de plusieurs secteurs dans des pays du monde entier. Le secteur des transports a été parmi les plus durement touchés. Les aéroports de nombreux pays, comme l'Allemagne et les États-Unis, ont été contraints d'annuler des centaines de vols. Le problème semble avoir été causé par une mise à jour logicielle erronée. Une version récemment publiée d'un logiciel de cybersécurité a provoqué le crash des ordinateurs Windows. Certaines compagnies aériennes ont rapidement opté pour un système alternatif permettant ainsi la reprise normale des opérations, mais les experts affirment que le correctif logiciel peut prendre plusieurs heures pour que tous les ordinateurs soient entièrement de nouveau opérationnels. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Reste avec nous. Merci. L'impasse politique post-électorale persiste en France. En raison des divergences au sein de l'alliance de gauche qui a remporté les récentes élections législatives en France sur la nomination du candidat au poste de Premier ministre, l'impasse politique persiste en ce pays à la veille des Jeux olympiques d'été. Selon le magazine allemand Rheinische-Post, l'équilibre des pouvoirs en France reste incertain, même une dizaine de jours après les élections. Le président Emmanuel Macron restera donc en fonction en tant qu'intérimaire du gouvernement actuel. Mais la question est de savoir combien de temps cette impasse pourra perdurer. Plus rien ne marche en France, du moins en politique, avant le début des Jeux olympiques et les vacances politiques estivales. L'important pays voisin de l'Allemagne est actuellement dépourvu du gouvernement puissant. Lors du Conseil des ministres de mardi à Paris, le président Emmanuel Macron a décidé de maintenir en fonction le précédent gouvernement du Premier ministre Gabriel Attal, mais uniquement à titre intérimaire. Les médias français l'ont rapporté à l'unanimité en référence aux ministres concernés. Cette période de transition pourrait durer quelques semaines et au moins jusqu'à la fin des Jeux olympiques en septembre, ont précisé les ministres. Cela signifie qu'une phase de statu quo plus longue est en train d'émerger dans ce pays qui, avec l'Allemagne, est considéré comme la force motrice de l'Union européenne. L'article poursuit que le gouvernement intérimaire ne peut plus initier des projets ou des lois, mais dans la situation politique floue actuelle, il ne peut pas être renversé par un vote de censure. En particulier, les 17 ministres qui ont tenu un siège au Parlement lors des élections peuvent avoir leur mot à dire dans la répartition des postes de direction lors de la session constitutive de l'Assemblée nationale de jeudi. Le soir du second tour des élections législatives, il y a une dizaine de jours, tout semblait plutôt facile. Le camp central de Macron a subi une défaite. Les nationalistes de droite de Marine Le Pen, initialement considérés comme favoris, ont été relégués à la troisième place et la nouvelle alliance de gauche victorieuse a exigé, même sans majorité absolue, que le président soit chargé de former un nouveau gouvernement. Toutefois, ni l'alliance de gauche, ni le camp de Macron n'ont réussi à forger une coalition gouvernementale viable avec d'autres partenaires. Au lieu de cela, les derniers jours politiques parisiens ont été caractérisés par des tactiques, des marchandages et des tiraillements acharnés. Les majorités ont été échantillonnées et en même temps sondées comment bloquer l'adversaire. Macron, qui tient habituellement les rênes, a annoncé qu'il attendrait pour nommer un nouveau Premier ministre. Il a appelé les partis à former une grande coalition. Et puis lundi s'est produit quelque chose sur lequel Macron avait peut-être déjà compté. Les rivalités au sein de la gauche ont menacé de conduire à une rupture de la nouvelle alliance. Lors de la confrontation avec les socialistes sur le choix d'un candidat, le parti de gauche a suspendu les discussions sur la formation d'un gouvernement. Tant que les socialistes insisteront sur leur propre candidat et opposeront leur veto au candidat du parti de gauche, les discussions sur la formation d'un gouvernement resteront suspendues, a déclaré le parti de gauche la France insoumise. Il a accusé les socialistes de blocus politique. Les socialistes, à leur tour, ont parlé du comportement antidémocratique de la gauche. L'Alliance de gauche, qui comprend également les Verts et les communistes, avait en effet voulu décider en fin de semaine qui deviendrait Premier ministre en cas de prise de pouvoir. Les socialistes ont nommé leur chef de parti Olivier Faure, le parti de gauche, lorgne également, entre autres candidats, sur son fondateur et leader Jean-Luc Mélenchon. Le stratège de la vieille gauche est une épine dans le pied de beaucoup, même au sein de son propre parti, en raison de sa nature autocratique et polémique. Mais Mélenchon continue de spéculer sur le pouvoir. À court terme, le conflit au sein de l'Alliance de gauche pourrait faire le jeu de Macron, car il est peu probable qu'il charge un camp de gauche divisé de former un gouvernement. Mais les observateurs soupçonnent également que le conflit entre les partis de gauche porte sur la domination en vue d'une éventuelle élection présidentielle anticipée. Compte tenu de la crise politique, Macron pourrait bientôt être contraint de démissionner avant la fin de son mandat en 2027. Selon le rapport des participants, Macron a appelé son camp politique lors du Conseil des ministres de mardi à présenter une proposition de coalition ou de coopération gouvernementale. Macron pourrait facilement attendre jusqu'à l'automne pour nommer un futur gouvernement, puisqu'il n'y a pas de date limite. L'impasse politique qui en résulte pourrait se prolonger si le président décide finalement de nommer un gouvernement technique composé d'experts, de hauts fonctionnaires et d'économistes, faute de majorité stable. Quoi qu'il en soit, une dissolution du Parlement et de nouvelles élections ne seront à nouveau possibles que dans un an. La coalition de gauche en France s'était seulement mis d'accord sur un candidat commun à la présidence du Parlement. Après de longues ou difficiles tractations, le communiste André Chassaigne a été annoncé comme candidat commun. Cyril Chatelain, le candidat des Verts, a retiré sa candidature. Cependant, les partis de la coalition de gauche, dont les socialistes, recherchent depuis 10 jours un leader commun à proposer au poste de Premier ministre. Macron avait accepté la démission du Premier ministre Gabriel Attal et de son gouvernement. Cependant, ils doivent rester en charge des affaires courantes jusqu'à ce qu'un nouveau gouvernement soit installé. On s'attend à ce qu'Attal reste à son poste jusqu'à la fin des Jeux olympiques d'été de Paris, qui débuteront le 26 juillet et se termineront le 11 août. Macron a convoqué des élections législatives anticipées après la victoire des populistes de droite aux élections européennes du 9 juin. Cette décision a conduit à la formation de 3 blocs politiques dont aucun n'a obtenu la majorité absolue et dont les plans sont difficilement compatibles les uns avec les autres. La coalition de gauche, le nouveau Front populaire, composé des Verts, des socialistes, des communistes et de la France insoumise, est devenue la force la plus importante lors des élections législatives, mais elle est loin d'avoir la majorité absolue. Sans partenaire supplémentaire, cette coalition ne peut pas gouverner et pourrait être bloquée par d'autres camps politiques.
Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette émission et pour cette nouvelle édition de débat de Presse TV français. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons évoquer la question palestinienne, mais d'un nouvel angle. Il s'agit des dernières déclarations et du dernier discours du ministre iranien des Affaires étrangères par intérim, M. Borrelli, qui est arrivé à New York pour des discussions importantes au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais le plus important qu'il a évoqué, le point le plus important qu'il a évoqué, c'est le rôle des États-Unis dans la poursuite des crimes perpétrés contre le peuple palestinien. Donc, selon lui, ce sont les États-Unis qui ne veulent pas que cette guerre, que ces crimes de guerre s'arrêtent. Nous allons évoquer ce sujet, nous allons évoquer le rôle des États-Unis, des présidents américains, mais notamment en fait cette puissance mondiale, cet unilatéralisme américain, non seulement dans la poursuite de la crise palestinienne, mais bien dans d'autres sujets et dossiers avec nos deux invités. Mais avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage qui a été préparé par mes collègues. Et on revient tout de suite après.
Le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim a déclaré que Téhéran cherchait à utiliser l'opportunité offerte par le Conseil de sécurité de l'ONU pour défendre les droits de la nation palestinienne et attirer l'attention sur les crimes du régime israélien. Ali Bareilly Kani a fait cette remarque aux journalistes après son arrivée à New York pour assister à deux sessions de conseil de sécurité de l'ONU. Bareilly Kani a vivement condamné le génocide à Gaza, soulignant que l'Iran resterait fermement engagé à contraindre le régime israélien et ses alliés, en particulier les États-Unis, à mettre un terme au génocide à Gaza qui dure depuis 9 mois. Le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim a également critiqué l'unilatéralisme de Washington, affirmant qu'il a provoqué une impasse sur d'importantes questions internationales, notamment le génocide à Gaza.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Je vous présente nos deux invités. Il s'agit d'Imadeddine Amrouni, analyste politique, analyste des questions internationales, également Bernard Cornu, géopolitologue. Je vous dis bonjour, messieurs. Merci de nous rejoindre pour cette émission. Monsieur Amrouni, si vous voulez bien, on commence avec vous en ce qui concerne ces déclarations. Est-ce que vous aussi, vous êtes d'accord avec le fait que ce sont les États-Unis, en fait, qui constituent tout d'abord un grand obstacle à la fin des crimes d'Israël à Gaza?
D'abord, bonjour à vous et à M. Cornu, à tous nos chers téléspectateurs. Bien sûr, dès le début, on l'a dit, tout le monde le sait, c'est pas nouveau que les États-Unis, le groupe anglo-saxon, qui gouverne ce monde depuis un siècle et demi, c'est lui qui fait la guerre à Gaza, c'est lui qui soutient l'armée sioniste, c'est lui qui le soutient financièrement, le soutient politiquement, mais surtout militairement. Donc le fait que les États-Unis sont impliqués, ce n'est pas un nouveau sujet. Le nouveau, c'est qu'à chaque fois, on a eu l'impression qu'il y a deux camps aux États-Unis. Il y a un camp qui cherche à négocier, qui veut stopper cette guerre, qui veut trouver des solutions politiques, géopolitiques, avec le bloc de la résistance, c'est-à-dire avec la République islamique d'Iran. C'est pour cette raison que le ministre des Affaires étrangères en intérim, M. Bareilly Kani, il a bien dit et bien précisé, il parle au nom de ce bloc de la résistance. Donc il y a un bloc, il y a une partie américaine qui peut trouver une solution politique, géopolitique, en négociant tous les dossiers dans la région. Et il y a un autre bloc qui est plus radical, qui lui veut éliminer la résistance d'abord palestinienne et éliminer la résistance libanaise. C'est-à-dire, pour eux, c'est une vraie occasion, tant que les États-Unis, il y a des élections présidentielles, donc la politique étrangère américaine, elle est presque sans objectif réel aujourd'hui entre les deux partis, c'est-à-dire démocrates et républicains. Donc ce deuxième bloc veut la guerre contre la résistance palestinienne et neutraliser la résistance libanaise.
ce que Netanyahou a compris. Et donc, c'est tout à fait normal que Netanyahou continue ses massacres, ses génocides, jusqu'à le 24 juillet. Parce que le 24 juillet, il veut qu'on le reçoive comme un héros de la guerre. Et il a voulu apporter la tête du commandant de la résistance palestinienne, le commandant Mohamed Azif, mais il a échoué. Donc Netanyahou continuera ses massacres avec l'aval de ce bloc américain qui veut la tête de la résistance palestinienne, mais surtout veut neutraliser la résistance libanaise.
Merci pour vos explications. Restez en ligne. Monsieur Cornu, vous avez entendu les explications d'Imadeddine Ambrouni. Dites-nous tout d'abord, est-ce que vous aussi vous êtes d'accord avec le fait que ce sont les États-Unis qui constituent un obstacle à la fin des crimes de guerre en Palestine occupée à Gaza? Et la deuxième question est de savoir, mais qu'est-ce qui gagne en fait les États-Unis à travers cette poursuite de guerre en Palestine occupée?
Les États-Unis qui opposent leur veto quand il y a des résolutions pertinentes du conflit israélo-palestinien et qui le bloquent ainsi par leur vote, par ce privilège exorbitant des cinq grandes puissances. Mais il faut néanmoins dire fermement qu'il y a un mécanisme qui marche dans le droit international existant, qui peut être appliqué par la force, c'est les résolutions chapitre 7. Donc il faudrait que les pays qui ont intérêt à proposer des solutions de paix, rédige ces résolutions avec précision, de façon qu'elles soient acceptables, considérées justes par le reste du monde et même par les États-Unis, qui dès lors ne s'opposeraient plus à ces résolutions. Et pour ces résolutions, il faut envisager d'une part le retrait de toutes les troupes israéliennes des territoires de la Palestine occupée, donc les limites de 1967, plus un couloir à échanger pour assurer la continuité de l'État. Et il faut aussi que le désarmement soit assuré assez longtemps, au moins un an, par les forces de casque bleu, le désarmement de tous les civils, donc les colons, et aussi le contrôle des frontières de la nouvelle Palestine et la sécurité. Et pendant ce temps-là, les Palestiniens pourront faire des élections, définir leur constitution et surtout faire les lois concernant tous les étrangers et notamment aussi le tarif de l'eau, afin que les colons, dont une grande partie sont des criminels et partiront le plus tôt possible, mais ceux qui sont venus là parce que c'était moins cher, parce qu'ils avaient une piscine, parce qu'ils avaient un beau paysage, pourquoi pas rester selon les lois palestiniennes. Et donc, mais il faudra aussi que l'État israélien reconnaisse qu'en 1948, les dirigeants d'alors ont fait un plan secret, occulte, encore non reconnu par le gouvernement, qu'il faut qu'ils le reconnaissent, qu'ils ont fait un plan de massacre, de peur, afin que le maximum de Palestiniens partent de la Palestine, que voulait revendiquer l'État, le nouvel État israélien. Il faudra aussi qu'une commission mixte des deux États, Palestine et Israël, se réunisse pendant suffisamment longtemps, peut-être 3 ans, pour réécrire l'histoire de 1890 jusqu'à maintenant, pour qu'en fait ceci soit la base des manuels d'histoire du secondaire, du primaire, de l'université, sans empêcher évidemment la recherche continuera, pour qu'il n'y ait pas de transmission d'un héritage, de besoin de vendange, de vengeance qui est perpétué actuellement, surtout du côté israélien. Et donc, et aussi dans certains peut-être manuels palestiniens, on le sait aussi. Donc ceci est très important et il faut aussi que ce soit une taxe internationale qui finance les réparations et les compensations, parce qu'il y a, ceci assumerait la responsabilité collective du monde qui n'a rien fait depuis 70 ans pour régler ce conflit, qui a laissé faire, qui a toléré les exactions, les assassinats de la part de l'armée et du gouvernement israélien pendant trop de décennies, qui a toléré l'occupation, l'extension des colonies. Donc il faut que ce soit le monde entier, notamment le monde occidental, qui paye. Et le moyen le plus simple est une taxe mondiale, parce qu'elle serait acceptée par le monde entier, à mon avis, assez facilement, si elle est effectivement mondiale. Plus personne n'échappera à cette responsabilité. Et ceci pourra être utilisé aussi pour compenser d'autres victimes dans d'autres conflits. Voilà, donc ce que je pense, c'est que l'Europe, en tout cas, doit prendre l'initiative. Donc la France et se joindre à l'Angleterre pour proposer, et à la Russie, pour proposer, et à la Chine, pour proposer une résolution adéquate pour traiter toutes les grandes questions de ce conflit et en finir de façon juste et durable.
Merci, M. Cornu. Alors, M. Amrouni, M. Cornu évoque cette résolution pour en finir avec ce conflit, une résolution et une solution durable, peut-on dire? Est-ce qu'on pourrait vraiment s'attendre à cette résolution et une solution durable, multilatérale, en ce qui concerne la question palestinienne?
Oui, je trouve aujourd'hui M. Cornu très optimiste. Je ne sais pas si c'est l'effet de l'été, du mois de juillet ou du 14 juillet. Il est très optimiste. En fait, on rentre dans une troisième phase, et une phase très dangereuse. Mm-hmm. Aujourd'hui, deux solutions. Ou bien le monde décide d'avoir la tête de Netanyahou, c'est-à-dire au niveau politique, l'arrêt de ce gouvernement raciste, xénophobe, antisémite, parce que les antisémites sont en Israël. Et c'est Netanyahou sans gouvernement. Ou bien on va vers une grande guerre, c'est-à-dire la guerre dans quelques semaines. Peut-être il va annoncer cette guerre dans le Congrès américain le 24 juillet. Donc on est vraiment dans une phase très, très sensible. Et donc aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Américains, il faut rappeler ce qui s'est passé avec Trump il y a quelques jours, on a essayé de signer. Et ça, c'est vraiment, en réalité, c'est en relation avec ce qui se passe à Gaza et avec ce qui se passe en Ukraine. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une guerre interne américaine, et je pose bien mes mots, il y a une guerre réelle entre deux blocs. Et celui qui va avoir la présidence américaine, c'est celui-là qui va décider est-ce qu'on va rentrer dans la troisième guerre mondiale ou non. Parce que pas non plus raconter qu'on est toujours avec les lois internationales, il n'existeront plus les lois internationales, il n'y en a plus de droit international. Vous voyez-vous, entre parenthèses, on a fait des élections en France législative, c'est comme si le peuple français n'a pas voté. Donc, ça ne sert plus à rien, cette démocratie qui vraiment ordonne la fin des peuples. Donc, Netanyahou veut écraser la population de Gaza. Il faut rappeler, il y a 150 000 entre morts, martyrs et blessés, et 1 600 000 de réfugiés à l'intérieur même de Gaza. Et il faut rappeler, il y a 700 morts en Cisjordanie. Et donc, on est dans une phase de guerre, on n'est pas dans une phase de paix. Maintenant, qu'est-ce qui a décidé le grand Satan, c'est-à-dire les États-Unis? Et le grand Satan, ici, c'est une appellation politique, c'est-à-dire cet impérialisme américain, cet impérialisme anglo-saxon qui veut étouffer le droit des peuples à leur liberté, à leur indépendance, pas simplement à Gaza, même ici en France, même ici en Europe. Les Européens n'ont plus le droit aujourd'hui de choisir leur président, de choisir leur gouvernement, de choisir leur politique. Pourquoi? Parce que le bloc anglo-saxon bloque tout, bloque les finances, bloque la politique, bloque les décisions militaires. Aujourd'hui, on risque d'entrer en guerre en Ukraine. Ce n'est pas le choix du peuple français, c'est le choix des Anglais et des Américains. Le choix des Anglais et des Américains, aujourd'hui, il est clair. Faire la guerre à la résistance, éliminer la résistance palestinienne de Gaza, éliminer ou stopper l'importance de la résistance au Liban. Donc peut-être dans quelques semaines, on aura un affrontement militaire important sur la frontière libanaise et de la Palestine occupée. Donc la situation, elle est très fragile. La situation, elle est... Parce qu'on n'a pas des leaders importants dans le monde européen ou britannique ou américain qui peuvent stopper cette guerre. En France, on n'a aucun leader aujourd'hui. En Allemagne, l'Allemagne, c'est un sous-continent américain. Et en Angleterre, on voit ce qui se passe. Donc, il n'y a plus de leaders aujourd'hui en Europe qui peuvent peser pour demander l'arrêt de cette guerre. Donc, qui peut arrêter cette guerre? C'est la résistance palestinienne, c'est la résistance au Liban, c'est la résistance en Irak et au Yémen et en Syrie. Donc la situation, elle est très difficile, elle est dangereuse, mais surtout dangereuse pour tout le monde. Cette fois-ci, ce n'est pas simplement pour les Libanais ou pour les Palestiniens. Elle sera aussi dangereuse pour les Israéliens, mais aussi pour les Américains.
Merci. Et M. Amrouni, vous avez évoqué la présidence américaine. Et vous voulez dire que si Trump est élu président des États-Unis, le prochain président, on aura recours à une troisième guerre mondiale, M. Amrouni, j'ai bien compris?
Ah, vous savez, celui qui l'a choisi comme vice-président, il n'a rien trouvé à dire que faire la guerre avec l'Iran.
Oui.
Donc faire la guerre avec l'Iran, ça veut dire faire la guerre avec le bloc de la résistance. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. C'est-à-dire, on a un Trump 2 qui va venir continuer ce qui a fait Trump 1. Donc lorsque on a un criminel sur la tête, à la tête de la présidence américaine, il faut attendre à tout. Même si malheureusement, on présente Trump comme un anti-système. On présente Trump comme celui qui résiste face à l'État profond américain. Pas du tout. Il fait partie de l'État profond américain. Les Anglais sont très intelligents. C'est les Anglais qui dirigent la politique américaine. Ce n'est pas les Américains. Il faut rappeler que les Américains, ils étaient occupés par les Anglais. Et même la France. Les Français pensent qu'ils étaient libérés par les Anglais, par Churchill. Non. Les Anglais ne font rien pour rien. Et le général de Gaulle l'a bien compris. Il l'a bien payé aussi. Donc, voyez-vous, aujourd'hui, on est en phase de guerre, on n'est pas en phase de paix, ma petite.
Merci, M. Amrouni. M. Cornu, vous avez entendu l'analyse de M. Amrouni. Qu'en pensez-vous?
C'est la guerre. Les seuls qui le veulent, c'est les marchands d'armes et certains dirigeants un peu fous. Mais les peuples ne veulent pas la guerre. Ils en souffrent eux-mêmes et profondément et durablement. Et je lis des dizaines d'articles chaque jour sur le conflit israélo-palestinien. Personne n'écrit sur comment résoudre ce conflit, comment trouver une solution. Or, en fait, le droit existe. Le droit a été appliqué dans d'autres cas, l'Irak, Daesh, et malheureusement aussi en Libye, de façon malsaine, abusive. Donc le droit existe et peut être appliqué seulement par ce genre de résolution. Donc c'est pour ça qu'il est important, et que j'insiste, qu'une résolution bien faite pourrait amener aux dirigeants et surtout aux députés élus en Europe, au Conseil de sécurité aussi, dans les différents pays, à faire pression sur les États-Unis pour qu'ils comprennent enfin le détail, parce qu'eux n'ont pas vécu la guerre chez eux depuis très longtemps, depuis leur guerre civile des années 1870. Et donc, ils ne sentent pas qu'est-ce que la guerre. Mais il y a des dizaines de milliers d'anciens combattants, centaines de milliers d'anciens combattants qui sont un peu fous aux États-Unis et qui souvent prennent des armes pour faire des folies. Donc en fait, le peuple américain sait l'impact de la guerre, des guerres qu'il a fait à l'extérieur. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est écrire comment arrêter cette guerre, comment mettre en œuvre une diplomatie courageuse, compétente, insistante, qui trouve les solutions. Et bien sûr, c'est l'Europe qui a vécu ces guerres-là, qui a trouvé des solutions en Europe pour arrêter ces guerres et pour collaborer entre pays, qui doit proposer ces solutions au Conseil de sécurité. Il y aura un débat ce soir au Conseil de sécurité des Nations Unies, justement sur la Palestine, et il serait temps que des pays proposent ce genre de résolution telle que je l'ai évoquée pour mettre les États-Unis au pied du mur, les citoyens au pied du mur et que leur gouvernement accepte finalement ce genre de résolution qui peut résoudre de façon politique et pacifique et fermement trouver des solutions à l'ensemble de ce conflit et ensuite à d'autres.
Et M. Cornu, on voit bien l'unilatéralisme américain, on voit bien les prises de position de Donald Trump et de son nouveau conseiller. Si jamais il sera élu président américain, est-ce qu'on pourrait vraiment penser à cette politique, cet pacifisme et ces résolutions?
Et si Biden veut être réélu, il faut qu'il comprenne la position des nombreux juifs antisionistes qui se sont réveillés aux États-Unis, des jeunes démocrates aussi qui sont réveillés et qui veulent une fin juste au conflit Israël-Palestine, qui veulent arrêter le massacre en cours, parce qu'ils savent que ceci déconsidère à la fois l'image du judaïsme auquel ils sont attachés, aussi l'image de la démocratie en Amérique, qui ne cesse de fournir des armes. Donc en fait, il y a quelques mois avant les élections, pour que les États-Unis sous Biden, avec l'Europe, avec la France, avec l'Angleterre maintenant qui est passée au Labour, qui même si ils ont, le Labour lui-même a fait des guerres, ils sont un peu plus pacifiques et plus courageux que ce qu'étaient les conservateurs. Donc on a quelques mois maintenant pour faire ces propositions d'une résolution sous chapitre 7 très précise, qui puisse être adopté le plus tôt possible au Conseil de sécurité pour mettre fin à ce massacre, à cette guerre et à cette occupation.
Merci, M. Cornu. M. Amrouni, votre conclusion, s'il vous plaît.
En réalité, la résistance palestinienne, elle a montré qu'elle a la capacité militaire de résister. Le peuple de Gaza, il a montré qu'il est capable d'être solidaire et uni. Le front de la résistance, aujourd'hui, on a entendu le discours de Saïd Hassan Nasrallah au Liban à l'occasion du 10e jour de Ashura. Donc il a bien défini les points importants vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis des Américains. Le front des résistants dans la région, il est prêt à mener la guerre, mais aussi il est prêt à avoir la paix. Donc il est prêt à arrêter cette guerre si Netanyahou et Biden décideront d'arrêter cette guerre.
Merci beaucoup, Monsieur Cornu. Vous, on vous écoute votre conclusion. On a 2-3 minutes.
Tout à fait. La résistance ferme, la résilience des populations palestiniennes et du sud du Liban sont importantes comme complément à la démocratie, à la diplomatie qui doit œuvrer beaucoup plus activement et beaucoup plus efficacement, beaucoup plus concrètement. Les deux sont complémentaires. Je salue la résistance palestinienne et la résistance qu'il y a au Liban. Mais je sais aussi, puisque j'ai beaucoup d'amis au Liban, qu'ils craignent la guerre et qu'ils ne la souhaitent pas. Donc le propos de Saïd Nasrallah est très important. Il faut que aussi les Israéliens comprennent que s'ils ne veulent pas de guerre, qui serait aussi très destructif pour eux, il faut qu'ils acceptent la diplomatie, de partager, de continuer les négociations et d'entrer dans des réelles négociations sincères avec les Palestiniens, ce que jusqu'à maintenant, ils n'ont pratiquement jamais fait.
Oui, merci. Monsieur Ambrouni, nous avons encore 2 minutes. Je pourrais vous poser peut-être la dernière question puisqu'on a encore un peu de temps. Il s'agit en fait toujours de la prise de position, mais notamment des pays européens. Vous avez évoqué les législatives françaises, les Français qui n'ont presque pas voté, ce qui se passe aux États-Unis, la réélection de Trump et tout ceci. J'aimerais surtout avoir la position des pays européens, mais surtout du gouvernement français, du gouvernement britannique. À votre avis, est-ce que ces pays pourraient peut-être un jour changer de position, peut-être pousser les États-Unis à arrêter d'être un obstacle en fait à cette crise?
Je ne le pense pas, malheureusement. Les peuples en Europe, la population européenne, elle est anti-guerre. Elle est pour le droit des Palestiniens d'avoir un État. Bon, on a toujours rappelé ici l'importance de la diplomatie française, le Quai d'Orsay, qui avait une vraie politique arabe. Et que la France a toujours soutenu la population palestinienne, même après les accords d'Oslo. C'est la France qui a soutenu toutes les actions sociales dans l'enseignement, dans l'éducation. Beaucoup d'efforts de l'État français ont été dirigés pour soutenir les Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza. Donc il faut renforcer, si vous voulez, cette diplomatie arabe de la France, parce que la France, c'est elle qui représente la politique européenne. Elle est étouffée avant par les Anglais, elle est étouffée aujourd'hui un peu par les Allemands, mais il faut que la France retrouve sa position. Je pense, si on aura un Premier ministre de centre-gauche, je pense que la position de la France va aider à trouver, comme l'a dit M. Cornu, une solution diplomatique. Donc ça dépend de la France en Europe. La position de la France pèsera réellement dans la politique étrangère vis-à-vis des États-Unis. Donc, on attend la désignation du Premier ministre français, mais aussi en Angleterre. L'Angleterre aussi, elle peut changer d'avis, pas de position, parce qu'elle est dans la position anglo-saxonne, elle est le centre, si vous voulez, des intérêts américains. Par contre, devant la résistance palestinienne et l'obstination de la résistance libanaise et la force iranienne, il faut rappeler que le choix du peuple iranien, c'est un choix stratégique important. Aujourd'hui, le plus important qui peut amener dans la région, ça s'appelle la République islamique d'Iran.
Nous avons voté la semaine dernière pour une autre politique étrangère, c'est très clair.
Merci, merci beaucoup. Merci. Merci Bernard Cornu, Madedine Amrouni, analyste des questions internationales. Merci à vous, à toutes et à tous, d'avoir été avec nous pour cette émission. L'émission touche à sa fin. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
Mesdames, Messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission qui porte sur les crimes commis par l'entité israélienne contre la bande de Gaza. Ce jeudi 18 juillet, Israël a bombardé les camps de réfugiés situés dans le centre de la bande de Gaza et frappé le nord de Gaza, tandis que les chars israéliens s'enfonçaient plus profondément dans Rafah au sud. Les autorités sanitaires palestiniennes ont rapporté que 16 personnes ont perdu la vie lors d'une série de frappes aériennes à Zawaïda, dans les camps de Bourayj et de Nusayrat, ainsi qu'à Deir al-Bala, une ville surpeuplée qui reste le dernier grand centre urbain de Gaza à ne pas avoir été envahi par les forces israéliennes. Des vidéos ont capturé des individus en deuil à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa à Deir al-Bala, où plusieurs corps étaient restés sur le sol. Un homme tenait tendrement dans ses bras le corps sans vie d'un enfant, symbole poignant de la tragédie qui s'est déroulée. Ahmed Abou Mohaysen a déclaré qu'une frappe avait visé la famille de son cousin dans la région d'Al-Zouaïda. Ses enfants et sa femme sont morts en martyrs, tout comme lui. Dans le nord de la ville de Gaza, des médecins ont indiqué que des frappes avaient touché l'école du Caire qui hébergeait des Palestiniens déplacés dans la ville de Gaza. Suite à l'attaque, plus de 10 personnes, dont 3 enfants, ont été tuées. À l'hôpital Al-Amal de Khan Younes, dans le sud de Gaza, les responsables palestiniens de la santé ont exhumé au moins 12 corps enterrés à l'intérieur de l'établissement médical pour les enterrer de nouveau dans un autre endroit. À Rafah, les Palestiniens ont déclaré que les chars israéliens ont avancé plus en profondeur dans la zone occidentale de Rafah et se sont positionnés au sommet d'une colline. Le 18 juillet, le Comité international de la Croix-Rouge a annoncé que l'hôpital de campagne de la Croix-Rouge de Rafah, d'une capacité de 60 lits, était sur le point d'atteindre sa pleine capacité en raison de l'invasion israélienne. Plus d'un million de personnes avaient cherché refuge à Rafah, mais la plupart se sont à nouveau dispersées depuis qu'Israël a lancé une invasion dans et autour de la ville en mai. Selon le chef de l'ONU, la situation humanitaire actuelle dans la bande de Gaza est une tâche morale pour nous tous. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, déclare que la situation humanitaire actuelle dans la bande de Gaza est une tâche morale pour nous tous. Guterres a fait ce commentaire dans une déclaration lue mercredi par son chef de cabinet, Courtenay Ratraï, lors d'une réunion sur le Moyen-Orient dirigée par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Le secrétaire général de l'ONU a souligné la nécessité urgente d'un cessez-le-feu humanitaire dans la zone côtière ravagée par la guerre, notant que les pourparlers avec l'Égypte, le Qatar et les États-Unis pour parvenir à un accord visant à libérer les captifs et à garantir un cessez-le-feu se poursuivaient et que certains progrès à cet égard avaient été signalés. Les parties doivent parvenir à un tel accord maintenant. La situation humanitaire à Gaza est une tâche morale pour nous tous, a déclaré Antonio Guterres, avertissant que le système de soutien humanitaire à Gaza était au bord de l'effondrement. Pour ce qui concerne la situation en Cisjordanie occupée et à Rots occupée, il a averti que des niveaux élevés de violence persistent, notamment de la part des forces israéliennes et des colons. Lors de cette réunion, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a critiqué le Conseil de sécurité de l'ONU, affirmant que les résolutions de l'instance internationale concernant la bande de Gaza n'étaient pas parvenues à mettre un terme à la violence dans les territoires palestiniens occupés. 4 résolutions ont été adoptées, cependant le carnage en cours dans les territoires palestiniens occupés ne fait que réaffirmer que toutes ces décisions sont restées sur le papier, a-t-il déclaré. L'opération militaire à grande échelle menée par Israël en collusion avec son allié américain a donné lieu à des statistiques effroyables en termes de victimes et de destruction en 300 jours, a noté Lavrov, ajoutant « Lors de la guerre de Gaza, 40 000 Palestiniens ont été déjà tués et 90 000 autres blessés, pour la plupart des femmes et des enfants. » L'actuelle explosion de violence sans précédent au Moyen-Orient est en grande partie une conséquence de l'échec de la politique américaine dans la région, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères. Lors de cette réunion du Conseil de sécurité, Riyad Mansour, l'envoyé palestinien auprès de l'ONU, a exhorté les Nations Unies à protéger la bande de Gaza du premier ministre fou du régime israélien, sur les ardes duquel la zone assiégée palestinienne subit une guerre génocidaire depuis 9 mois. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est jugé pour corruption, fraude et abus de confiance. Selon les observateurs, la prolongation de la guerre permettrait de détourner l'attention sur les déboires du premier ministre et d'éviter les répercussions des poursuites judiciaires. Il a été d'ailleurs accusé d'avoir saboté les négociations en cours sous l'égide du Qatar et de l'Égypte visant à parvenir à un accord de cessez-le-feu à Gaza. Un haut responsable du mouvement de résistance islamique palestinien Hamas affirme que Benjamin Netanyahou compromettait les négociations de cessez-le-feu. Dans un communiqué publié dimanche 14 juillet, Khalil al-Hayya, le chef adjoint du Hamas dans la bande de Gaza, a déclaré que Netanyahou était responsable si les pourparlers en cours échouaient. Le régime israélien a récemment intensifié ses attaques contre les camps de réfugiés, avec le raid le plus meurtrier ayant eu lieu le 13 juillet, dans le camp d'Al-Mawasi, causant la mort de 90 Palestiniens. Le dernier bilan publié jeudi fait état de 54 morts au cours des dernières 24 heures. Israël a tué plus de 38 880 personnes à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Pax, un groupe d'activistes néerlandais, a déclaré qu'une étude montre que les bombardements continus et le blocus pétrolier d'Israël ont décimé le système obsolète de collecte des déchets de Gaza, menaçant l'approvisionnement en eau et les terres agricoles. Un nouveau rapport de l'Organisation humanitaire internationale Oxfam indique qu'Israël a réduit de 94% la qualité d'eau disponible à Gaza, créant une catastrophe sanitaire mortelle.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.